vos Bibles, vous pouvez regarder dans l'évangile de Matthieu. Il s'agit de... On va se focaliser sur le roi Hérode ce matin. Alors vous savez, les régimes un petit peu autoritaires comme ça, les dictateurs, ça a toujours existé. Et on se demande bien pourquoi il y a des dictateurs, pourquoi il y a des personnes... certainement, il y a beaucoup de sociologues qui ont dû réfléchir là, sur ces questions-là, mais nous, en tant que chrétiens, la question qu'on se pose, mais pourquoi Dieu il permet qu'il y ait ces gens qui font du mal, qui sont des tyrans, pourquoi Dieu permet cela? Et quand on voit le texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 2, ah ben on se dit, ben oui, ça, même quand Dieu a introduit son Fils dans le monde, il y avait un tyran qui était là. Ça n'a pas manqué. Alors on va lire l'histoire, Matthieu, chapitre 2. Donc, on va prendre le contexte parce que le roi Hérode, il en est question dès le début du chapitre. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, le voilà. Voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, deuxième roi, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, où c'était? Bethléem, exact. À Bethléem, on a des sages aussi parmi nous ce matin, de la connaissance. À Bethléem, voilà ce qu'ils ont dit, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre, la plus petite entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez les informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-moi le savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vu en Orient aller devant eux jusqu'au moment où arrivèrent au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils gagnèrent leur pays par un autre chemin. La petite scénette de la fête de Noël s'arrêtait là. Voilà. Et on avait des personnages, et on se souvient tous. Le roi Hérode était merveilleusement interprété. Voilà la suite de notre texte. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis !» en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Il prit l'enfant de lui, immédiatement. C'était quelque chose qui était... La vie de l'enfant était en jeu. Et il n'a pas attendu même que le jour se lève. Il a réveillé toute sa famille. Et ça ne devait pas être facile de rassembler toutes les affaires. On sait ce que c'est pour déplacer un enfant. Il y a toujours plein d'affaires qu'il faut faire suivre. Et tout organiser. Mais ils sont partis rapidement. Verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, ils ne sont pas revenus le voir pour lui dire où était l'enfant, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il avait fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Rachel, c'est l'arrière-grand-mère de tout, c'est ce peuple, de tous ces enfants d'Israël. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, elle qui a été enterrée là-bas. Parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père, Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Alors, on parle de Hérode, et le texte parle de Hérode comme un petit peu comme si on le connaissait. Et c'est vrai que les premiers auditeurs, les premiers lecteurs ou auditeurs du texte de Matthieu savaient qui était Hérode. C'était un roi tristement célèbre. Alors, pour nous ce matin, j'ai fait un petit peu des recherches comme ça pour faire connaissance davantage avec ce fameux roi Hérode, celui qui a assassiné tous ses enfants. Qui était-il, ce roi? Alors, on va projeter ça à l'écran. Donc on est sous l'Empire romain, les Romains sont partout présents, donc c'est eux qui sont la vraie puissance dominante, c'est Rome. Mais il n'empêche que la Judée, elle était passée sous le contrôle sous l'influence de Rome, et c'était donc... Antipater qui s'occupait de la gestion de la Judée quand Jules César était encore là. Donc, il avait 2 fils, Phasaël et Hérode. Et Hérode, donc le fils d'Antipater, il s'occupait, lui, du nord de la Judée. Et donc, Phasaël s'occupait de l'autre partie. Antipater était un Édomite qui s'était converti sous la pression des Juifs de l'époque, les Asmonéens, qui s'était converti au judaïsme. Tout Édom s'était converti, un petit peu forcé, semble-t-il, mais en tout cas, Antipater donc administrait en tant que Juif converti, mais Édomite, c'était conseiller de Hyrcan II, qui était le roi, un descendant des Maccabées, de ceux qui avaient acquis l'indépendance des Syriens et des Égyptiens à l'époque. C'était une dynastie très, très célèbre. On est en moins 47. En moins 44, Jules César se fait assassiner. Et c'est Antoine, qui va, un des généraux de l'époque, qui va s'occuper de toute cette partie de l'Empire. Il y a une rivalité entre lui et un autre général qui s'appelle Auguste. Et en fait, ce que va faire Hérode, il va aller voir Antoine et il va prendre un bon paquet d'argent avec lui. Et pour que rien ne change, pour qu'il reste au pouvoir et que Antoine ne change rien du tout de l'administration de la région. Et donc Antoine est très content parce qu'il a besoin d'argent pour refaire ses guerres. Entre-temps, la Judée profite un petit peu du flou qui se passe à Rome entre la rivalité entre Antoine Octave Auguste. Et donc les partes Antigonos, donc un des descendants, un frère de Hyrcan II, donc dans les dynasties il y a toujours des rivalités. En tout cas, il est le fils d'Aristobule II, donc. Tous les deux étaient frères, tous les deux se disputaient un petit peu le pouvoir à ce moment-là en Israël. Et donc Antigonos, il profite de la présence des Parthes pour chasser les Romains et donc retrouver un semblant d'indépendance. Bien sûr, ça ne fait pas les affaires de Rome. Alors, ce que fait Hérode, lui, il le fuit et il va retrouver donc. Il va à Rome, où il obtient d'Antoine et d'Antoine et d'Octave, donc, voilà son nom, d'Antoine et Octave d'être le roi de Judée. Mais le royaume, il devra le conquérir, et donc pour ça, il revient en Judée, et il a avec lui les armées, la puissance de l'armée romaine pour l'assister, et donc il va petit à petit refaire la conquête de toute la Judée, et donc en moins 37, c'est la prise de Jérusalem. Et en même temps, il sait qu'il est d'une famille, qu'il est de Édom, donc il a combattu Antigonos, qui était un vrai descendant de la dynastie légitime des rois et des grands prêtres qui avaient régné en Israël. Et donc, ce qu'il fait, il va épouser une fille de Hyrcan II, hein, qui s'appelle Mariam, qui visiblement, c'est un mariage pour lui, un petit peu un mariage d'amour. Hein, quoi, il était déjà marié, il renvoie sa première épouse pour épouser Mariam. Et donc, voilà, c'est ainsi qu'il établit son règne dans toute la Judée. Alors, il commence à faire des assassinats pour débarrasser un petit peu le Sanhédrin des personnes qui lui sont opposées pour affaiblir le Sanhédrin. Le Sanhédrin n'a plus comme pouvoir religieux. Il le fait revenir à Hyrcan II qui était parti, bien sûr, chassé par Antigonos. Il était retenu dans la région de Babylone, là-bas. Donc il le fait revenir. Donc tout ça, ça semble assez positif à ce moment-là. Sauf que il se méfie de Hyrcane II, parce qu'il y a un petit-fils de... de Hyrcane II qui s'appelle Aristobule III, ou non, il est petit-fils de... Antigonos. Aristobule III, qui est un jeune homme de 17 ans, et donc on lui demande qu'il soit grand prêtre. Seulement, c'est un jeune homme qui est très populaire, et lui, il voit un rival là-dedans, et donc il le fait assassiner en 36. Bien sûr, ça fait des remous, les gens ne sont pas contents, ils vont se plaindre aux autorités romaines. Et donc, il est convoqué par Antoine et l'autorité romaine. Et donc, il arrive avec un bon paquet d'argent. Et puis, l'affaire s'arrange et il reste en place une nouvelle fois. Entre-temps, quelques années plus tard, on est en moins 30. Il a un problème parce que Antoine se fait renverser par Octave. Et donc, comme il était un soutien de Antoine, qu'est-ce qui va arriver de son sort ? Ben, il va au devant pour rencontrer Octave, et bien sûr, il amène toujours beaucoup d'argent avec lui. Et Octave le confirme dans son rôle de roi de la Judée. On est à moins 30, il fait assassiner Hyrcane II parce qu'il a peur qu'il fomente, c'est le vieux monsieur à ce moment-là, hein. Il a peur qu'il fomente un attentat. Puis dans la foulée, il fait assassiner aussi son épouse Marianne, parce qu'il a peur également qu'elle fasse des complots contre lui. Marianne n'est pas du tout contente qu'il ait fait, bien sûr, assassiner son père. Donc il fait assassiner Marianne. Il fait assassiner également sa belle-mère, la mère de Marianne, Alexandra. Il fait assassiner même des gens de sa propre famille, son beau-frère du côté de sa famille à lui. Et donc là, il y a une grande vague d'assassinats dans sa propre famille. Toujours dans la crainte qu'il y ait un coup d'État, qu'il y ait un attentat, et qu'il perde son royaume. Je crois que Marianne, c'était la petite fille d'Hyrcane II. Le temps passe, il décide donc tout ça, bien sûr, ne fait pas sa popularité. Alors, peu de temps après, il décide à moins 20 d'entreprendre les travaux de restauration du temple, un énorme travail. Il paraît qu'il va y avoir 10 000 ouvriers qui vont travailler à la restauration du temple de Jérusalem. C'est là où la grande esplanade qui existe encore aujourd'hui est faite, avec les murs de soutènement et qu'on appelle les murs des lamentations. Tout ça, ça date de cette époque-là. En moins 8, il fait exécuter 3 de ses propres fils parce qu'il les soupçonne de fomenter un coup d'État contre lui. Donc les 3 qui étaient présupposés qu'il avait mis sur son testament comme devant lui succéder, il les fait exécuter. Il y avait 2 fils qu'il avait eu avec Marianne et un autre fils qu'il avait eu avec une autre épouse. Les 3 étaient les personne qu'il avait mis en avant pour sa succession, et donc il est fait assassiner. On est en moins 8 et en moins 5 environ, se situe le passage du massacre des enfants de Bethléem. Donc, et en moins 4, il meurt. Et le royaume est partagé entre ses 3 fils, donc Archaléos qui va prendre la Judée, mais qui ne va pas rester longtemps en place parce qu'il ne va pas arriver à maintenir l'ordre. Et donc, c'est un procurateur romain qui va gérer la Judée, sera plus administré par les Hérodes, Hérode Antipas et Hérode Philippe II, qui vont se partager les autres parties du pays. Voilà un petit peu le curriculum vitae de notre roi Hérode. Moins 4 avant Jésus-Christ. Il est né à peu près vers moins 5, moins 6. Oui, mais quand on a fixé la date de la naissance de Jésus, il y a une erreur, en fait, de historien. Oui, de 6 ans de décalage. En fait, c'est sûr que Hérode est mort en moins 4. Et Jésus est né quand il y avait déjà Hérode était au pouvoir. Et donc, comme il a fait supprimer les enfants de 2 ans environ, 2 ans et moins, donc il a dû prendre une bonne marge de tolérance. Donc, c'est ce qui suturait le massacre des enfants vers moins 5 et sa naissance vers moins 5, moins 6. Bon, ça dépend comment on compte. Hein. Mais il y a un décalage de, il y a un décalage au niveau des années. Donc, on dit Jésus-Christ, après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, mais en fait Jésus-Christ est né un petit peu avant. Histoire. Histoire des erreurs des historiens du Moyen Âge. Alors, comme je vous avais dit, il ne faut pas s'étonner que le monde abrite des tyrans. Et ce qu'il ne faut pas s'étonner également, c'est que les grandes puissances tolèrent la présence de tyrans. Et on le voit avec ici, c'est très clair, avec Hérode quand il y avait une puissance à l'autre qui changeait, il est arrivé à se maintenir en place un petit peu comme dans notre histoire contemporaine. Il y a des dictateurs qui, ben, il y a tel président qui change dans tel grand pays ou les États-Unis ou autres, ben, ils arrivent quand même à eux rester en place avec leur système de pot de vin d'avoir des relations et de faire jouer des arguments de la stabilité, pour que l'économie marche, etc. Il y a toutes sortes de raisons qui font que, ben, avant comme aujourd'hui, les tyrans sont laissés en place par les grandes puissances, ils sont tolérés par eux. Donc il ne faut pas s'étonner, parce que du temps du Seigneur, c'était déjà comme cela. Et Dieu a envoyé son Fils dans un monde qui était normal, on pourrait dire, si on compare par rapport à aujourd'hui. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais il n'empêche, pour notre texte ici, ça met en perspective les deux rois. Il y a le roi des Juifs, Jésus, et le roi Hérode, qui avait aussi le titre de roi. S'il n'était pas roi des Juifs, il était roi de la Judée au moins. Bon, les Juifs ne le reconnaissaient pas trop comme leur roi parce que c'était un Édomite. Et ça posait un problème. Je vous propose maintenant une comparaison entre ces deux rois. Entre le roi Hérode et le roi Jésus. Donc, le roi Hérode n'est pas vraiment légitime, hein, parce que c'était pas un juif très fervent. Hein. Il était juif parce que c'était comme ça, tout Édom était juif. Mais il était penché plutôt pour la culture grecque, et dans les faits, il a fait des alliances avec Rome. Par contre, Jésus, lui, c'était le roi légitime, hein, qui est descendant de David. Par sa mère et par son père adoptif, on a deux généalogies qui légitiment par les généalogies la possibilité pour Jésus d'être roi. C'était un roi légitime. Hérode est né dans un palais, ou du moins dans une demeure confortable. Le roi Jésus, lui, est né dans une étable. Le roi Hérode était très riche. Il s'est acquis de très grandes richesses. Il a été quelque part, il a très bien su administrer la région qu'il avait sous sa juridiction. Quelqu'un qui s'est très enrichi. Et on sait que Jésus, lui, est né dans une famille pauvre. Le roi Hérode, lui, c'est un vassal de Rome. Et Jésus, lui, c'est un serviteur de Dieu. Donc les deux sont ils sont dans une position d'avoir quelqu'un qui est au-dessus d'eux, hein, les deux rois. On a l'un qui est colérique et qui est violent, c'est Hérode. Et Jésus est doux et humble de cœur. Prenez bien ces paroles. Hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui employez ce fardeau trop lourd pour vous. Je vous donnerai de vos repos. Prenez mon joug sur vous, car je suis moi-même doux et humble de cœur. Il y en a un qui est un trompeur, qui trompe les gens, et il y a Jésus, le roi Hérode, et le roi Jésus, lui, il défend de la vérité. Il est la vérité même, il dit « Je suis la vérité et la vie ». Il a dit « Je suis devant Pilate, je suis né pour rendre témoignage à la vérité ». Qu'est-ce que la vérité a répondu Pilate à l'époque? Donc, deux rois très différents. Hérode a disposé d'armées et a mené des guerres. De grandes guerres lorsqu'il s'est trouvé envahi par les armées parthes là. Et Jésus, lui, de son côté, est un roi qui n'a jamais porté d'armes, il n'a jamais eu non plus de garde du corps. Un roi très différent. Donc un menteur, un manipulateur, un corrupteur, j'ai mis deux fois la même chose. Hein. Jésus, lui, dit la vérité. Et quand, justement, en Matthieu 27, vous savez, les partisans d'Hérode, donc il y avait un parti politique qu'il a laissé derrière lui, les partisans des Hérodes, donc les descendants d'Hérode, sont venus le voir avec les Sadducéens pour lui tendre un piège, avec les pharisiens pour lui tendre un piège sur la question de payer ou non l'impôt à César. Et donc, c'était des pièges qui étaient tendus, c'était pour le manipuler, pour le mettre en difficulté. Et ils ont commencé en disant « On sait que tu dis la vérité, voilà, on sait que ta parole, etc. » Ils ont commencé à reconnaître que Jésus était quelqu'un qui disait la vérité, qui ne faisait pas attention aux personnes, mais qui s'attachait toujours à dire et à proclamer la vérité. Et donc, on sait qu'ils ne sont pas arrivés du tout à le mettre en défaut, Jésus. Donc, un qui est en compromis avec les Romains, hein, Hérode est un roi compromis avec les Romains, alors que Jésus, lui, n'est pas compromis avec ce monde et avec ses royaumes. « Mon royaume n'est pas de ce monde », disait Jésus, il était d'un autre royaume, et il était un roi différent. Hérode est un roi qui a fait condamner à mort énormément de personnes. Il a fait organiser des procès, tous ses fils, tout ça, même sa propre femme, pour les faire assassiner. En fait, il a fait des procès et il les a déclarés coupables de conspiration, de trucs ou de machin. Et il les a fait exécuter comme des condamnés à mort. C'était pas de l'assassinat, de mettre du poison dans la boisson. Non, il les a fait condamner à mort. Jésus-Christ, lui, il a été condamné à mort par une de tels tribunaux. Il a tué même des enfants innocents. On connaît cette histoire qu'on vient de lire. Et Jésus, lui, il accueille les enfants, il laisse venir à moi, les petits-enfants. Et donc, différent, un roi différent. C'est un roi qui est rejeté par son peuple. Il n'était pas du tout aimé. Les juifs qui étaient sous son autorité étaient obligés de faire avec. Il n'avait pas de fibre patriotique pour le Dieu d'Israël du tout. Il était rejeté. Et au point même qu'à sa mort, il avait peur, tellement peur que personne ne pleure, qu'il avait ordonné que le jour où il mourrait, qu'on assassine différentes personnes à Jérusalem, des notables, pour qu'il y ait de la tristesse ce jour-là. Et que les gens ne soient pas heureux de le savoir meurt, mais qu'il y ait de la tristesse. Et bon, ça n'a pas été exécuté, mais c'était le souhait qu'il avait laissé. Jésus aussi a été rejeté par le peuple, on sait, hein, crucifie-le, crucifie-le. Les deux ont eu, de ce côté-là, le même rejet. Il y en a un qui ignore les prophéties, on l'a vu, il n'était pas au courant du tout de l'endroit où devait naître le roi des Juifs, Jésus. Et il y en a l'autre, Jésus-Christ, qui accomplit les prophéties. Hérode prend la vie des autres, et Jésus, lui, il donne sa vie pour les autres. Hérode, il a conquis le pouvoir, Il a lutté toute sa vie pour avoir le pouvoir et pour s'y maintenir. C'était son but. Hein. Et Jésus, lui, il a accompli sa destinée. Hérode était complètement paranoïaque. Hein. On le constate, il avait cette peur qu'on lui prenne ce qu'il avait. Hein, qu'on lui aussi, à son tour, il soit l'objet d'un complot, comme il avait comploté, comme complote contre lui. Et Jésus, lui, savait ce qui était dans le cœur des hommes, dans le cœur des gens, il ne se trompait pas sur les personnes, alors qu'Hérode, lui, était maladivement dans la crainte et il croyait toujours qu'on voulait lui faire du mal. Et donc, il a voulu garder le pouvoir et Jésus, lui, il s'est abaissé comme un simple homme. L'homme a voulu garder ce qu'il avait, mais Jésus, lui, l'a au contraire abandonné. Voilà. Il y en a un qui a été, Hérode a été un bâtisseur de palais, de temples, d'infrastructures de pierre, et Jésus, lui, il a bâti son église. Avec des hommes et des femmes du monde entier. Donc deux façons de bâtir, deux bâtisseurs qui étaient très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui s'appelait Hérode le Grand. Mais pourquoi on l'appelait Hérode le Grand alors qu'il semblait tellement être un problème pour son entourage? Ben, en fait, de son temps, il y avait une stabilité politique. Qui dit stabilité politique dit prospérité, et la prospérité économique, ça s'installe aussi. Et donc, il a bien administré, les historiens reconnaissent qu'il a été un bon administrateur, et la richesse de la Judée s'est beaucoup accrue quand il était au pouvoir. C'est pour ça qu'on l'appelait Hérode le Grand, à cause de toutes ses grandes réalisations. Mais Jésus, lui, il est le Christ, le Messie. Cependant, Hérode n'a été qu'un tyran parmi d'autres. Jésus, lui, a bouleversé le monde entier jusqu'à présent. Hérode, il est mort dans des grandes souffrances. Il avait une gangrène aux organes génitaux. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait être. Et Jésus aussi, le deuxième roi est mort on le sait, à la croix, crucifié sur le mont Golgotha. L'un est mort dans l'attente du jugement. Mais la différence, c'est que Jésus-Christ, lui, est le roi qui est ressuscité pour toujours. Notre texte a dit que quand Hérode fut mort, Matthieu 2, chapitre 19, et il est mort dans la foulée, après avoir fait ce massacre d'enfants, il est mort très peu de temps après. Jésus lui est ressuscité, le roi qui est ressuscité pour toujours. Il ne pouvait pas être retenu par la mort parce qu'il était juste. Il a laissé quelques partisans, quelques personnes se sont ralliées à une sorte de parti politique, les Hérodiens, qu'on les retrouve plus loin dans l'histoire de la vie de Jésus. Et Jésus lui laisse des millions de disciples. Hérode est quelqu'un qui, au final, a fait du mal à sa propre famille. Il s'est vraiment. Semblait être amoureux vraiment de sa femme. Et pourtant, il a fait assassiner et sa vie a basculé quand il a fait ce drame qu'il a été jusqu'à tuer sa femme, il a été tué, ses propres enfants. Et on sait que Jésus, lui, il a sauvé sa propre famille. À la fin, même s'il n'a pas toujours été bien compris par sa famille, par ses proches, au final, tous se sont retrouvés dans la chambre haute à Jérusalem en attendant la venue du Saint-Esprit. Deux rois très différents. Alors, quelques réflexions pour la nouvelle année. On a le portrait d'un roi Hérode qui est épouvantable. Mais il y a, on peut voir ici peut-être chez lui des traits de caractère qui sont des caricatures. C'est tellement fort, tellement énorme ce qu'il avait comme défaut. C'est tellement gras. Mais peut-être on peut trouver chez lui en nous des choses qui ressemblent un petit peu à ce caractère qui avait Hérode, quoique chez lui c'était démesuré. Alors on peut réfléchir comme ça pour cette nouvelle année. Est-ce que nous on n'est pas on ne peut pas être comparé à des Hérodes, mais on a un cercle, il y a toujours une zone où on a de l'autorité quand on est adulte principalement. Mais ça peut être démarré assez tôt, quand on est par exemple l'aîné de la famille, on a une petite autorité sur ses frères et sœurs. Et quand on est dans une famille, on a une autorité sur ses enfants. Et quand on est au travail, on peut avoir une position où on a également un petit peu d'autorité. Donc quel est cette sphère où moi j'ai du pouvoir, où moi j'ai de l'autorité? Est-ce que il y a des endroits où j'ai effectivement j'ai une sorte de pouvoir? Est-ce que vous identifiez ça? Est-ce que vous voyez des endroits où effectivement vous avez de l'autorité? On ne pourrait pas vous appeler un roi ou un prince, mais il y a cette idée quand même que d'être de faire ce qu'on veut, de pouvoir décider comme on veut. Si c'est le cas, s'il y a des endroits où j'ai de l'autorité comme ça, quelle est ma légitimité? Est-ce que c'est une autorité légitime que j'exerce? Ou est-ce que c'est finalement, non, je fais quelque chose, mais c'est pas très légitime. J'ai pas une vraie légitimité pour avoir de l'autorité comme ça, pour prendre de l'autorité, pour ce pouvoir que j'exerce. J'ai pas une vraie légitimité, ou au contraire, je l'ai. Et à quoi je ressemble dans ma façon d'exercer l'autorité? Est-ce que je suis doux et humble de cœur, comme le roi Jésus? Ou est-ce que, comme Hérode, je suis colérique et je cède à la violence? Est-ce que je suis un fervent adepte de la vérité, comme Jésus? Ou est-ce que, comme Hérode, avant le mensonge, la manipulation, avoir de l'influence, essayer de d'arranger les choses dans mon sens, est-ce que c'est ça que je pratique? Sachant que Hérode, c'est vraiment une grande caricature, hein. Il a fait ça à très grande échelle. Mais à petite échelle, on peut nous aussi avoir ce genre de réflexe que de mentir ou d'essayer exercer notre pouvoir sur les situations, sur les personnes, sur les gens, sur tout ce que on peut avoir directement sous notre influence. Comment sont mes relations familiales? Jésus, donc, il n'avait pas toujours été compris, mais à la fin de sa vie, il a pris soin de sa famille et a confié sa maman à un disciple pour qu'il prenne soin d'elle. Il avait ses frères et sa maman qui étaient dans la chambre haute avec les autres disciples à la fin de sa vie. Ou est-ce qu'on est dans la situation d'Hérode, ou qui était suspicieux, qui voyait des intrigues partout, qui pensait qu'on parlait de lui, qu'on voulait lui faire du tort? Est-ce que ma famille a eu des blessures? Est-ce qu'elle est fractionnée? Est-ce que je me sens isolé d'elle? Est-ce que je me méfie d'elle? Comment sont mes relations familiales? Quelles sont mes peurs? Hérode avait une peur maladive de perdre le pouvoir qu'il avait si chèrement pour avoir le. Il s'était battu pour avoir ce pouvoir, et militairement, et politiquement, et malhonnêtement. Et il avait tout fait pour être au pouvoir, et il avait la peur de le perdre. On peut avoir des peurs profondes, nous aussi, des vraies peurs, qui sont là toujours en nous, cachés en nous. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Quelle est la chose que j'ai peur de perdre, hein? Et lorsque je vois cette chose que j'ai peur de perdre, qu'est-ce que m'enseigne Jésus là-dessus? Qu'est-ce que m'enseigne Jésus? Parce que lui, il n'a jamais eu peur de perdre ce qu'il avait, même de perdre jusqu'à sa propre vie. Et il nous demande d'avoir la crainte de Dieu. Quelles sont mes peurs? Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Alors, les constructions de pierre sont les réalisations humaines qui durent le plus de temps. On a des pyramides d'Égypte qui sont là depuis 4000 ans. Il y a plein de constructions tout autour du monde qui ont fait en pierre et ça dure vraiment longtemps. Est-ce que nos investissements, est-ce que ce que l'on construit, est-ce que cela va durer? Jésus, vous savez ce qu'il a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, où le voleur ne peut pas percer les murs, ni voler. Toutes les pyramides, pas plutôt construites, elles étaient censées protéger le tombeau des pharaons, et pas plutôt le dos tourné. Quelques années passent et une instabilité politique arrive et immédiatement les pillards sont venus vider tout ce qu'il y avait dans ces tombeaux hautement sécurisés. Donc, amassez-vous des trésors dans le ciel, nous dit Jésus, c'est le roi Jésus, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? C'est l'éternelle question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Jésus a accompli la volonté de Dieu. Et nous, on est appelé à faire la même chose, et c'est dommage, ce serait vraiment rater sa vie que de ne pas avoir accompli ce que Dieu, ce pourquoi il nous avait donné la vie, pourquoi il nous avait placé sur terre, c'est pour faire quelque chose. C'est pour un rôle à jouer dans son grand plan du salut de Dieu pour l'humanité. Chacun a un rôle à jouer. Et est-ce que je suis, moi, dans la volonté de Dieu? Comment faire pour être prévenu de devenir un roi autocratique comme Hérode? Vous savez ce qui est proposé, qu'on connaît bien, c'est de ne pas décider les choses tout seul et de ne pas faire les choses tout seul, mais de partager le pouvoir que l'on a, l'autorité que l'on a. Alors ça se fait déjà dans la famille, entre le mari et la femme, une sorte de conseil, et les choses, les décisions sont prises ensemble, et dans l'Église également, il y a la parole de Dieu encourage à ce qu'il y ait des décisions qui soient prises ensemble, pas qu'une seule personne pour prévenir d'avoir une dérive autocratique. C'est l'Église qui est quelque chose qui est très organisé, surtout le plus important de tout. C'est d'avoir Dieu comme supérieur, comme être le vassal de Dieu, ne pas être comme Hérode, le vassal d'une puissance qui n'est pas dans la volonté de Dieu. On est toujours esclave de quelque chose, dit Jésus, esclave de ceux qui a triomphé de nous. Et donc, en ce sens-là, c'est quelque chose qui est important également. Servons-nous? Qui est au-dessus de nous? À qui devons-nous la redevabilité? Et voilà des pistes pour nous garder de dériver comme Hérode l'a fait. il a bien essayé de faire, de rattraper, de faire des actes de générosité pour le peuple, etc. Mais il avait tellement commis d'atrocités que c'était pas possible. Et on le voit jusqu'à la fin de sa vie, il a été dominé par cette peur de perdre le pouvoir qu'il avait si cher en main. Voilà. Que l'on confie nos peurs à notre Dieu. Le seul que l'on doit craindre, le sait, c'est lui. Et toutes les autres peurs n'ont pas leur place. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et la plus grande des peurs qu'on a, si c'est de mourir, eh bien voilà, Jésus-Christ est plus grand. Et il est capable de nous défendre même devant la mort. Seigneur, merci pour le moment que nous passons avec toi, ensemble. Merci de nous garder, de ressembler à des petits Hérodes et d'être des gens qui sont terribles et qui font souffrir autour d'eux, et d'être des gens qui sont esclaves de leur passion, de leur désir, de leur projet, au point d'être aveugle et de faire du mal même aux personnes qu'on aime le plus. Merci pour l'Église, merci pour la communauté, merci pour le conseil et la possibilité de pas être tout seul pour prendre les décisions, de pas être tout seul pour diriger sa propre vie, mais d'avoir donné l'Église, d'avoir donné également une famille et toutes ces bonnes choses qui nous permettent de nous garder, de nous mettre en garde de nous-mêmes. Merci Seigneur d'être pour l'exemple de Jésus, le roi parfait, c'est lui que nous voulons servir. Tu le sais au plus profond de nous. Garde-nous. Dans le nom de Jésus. Amen.